Le MAPI, le plus grand salon de l'immobilier commercial, du 28 au 30 novembre 2023 au Palais des Festivals de Cannes sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo en direct du Palais des Festivals à Cannes pour le MAPIC, le plus grand salon international de l'immobilier commercial. Alors on va sortir un petit peu des centres commerciaux pour revenir sur High Street, c'est-à-dire nos centres-villes, avec un spécialiste de la question, c'est Thierry Fourès. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Vastned, une société néerlandaise, et vous vous occupez principalement de la France. Qu'est-ce qui se passe, Thierry, justement, sur ces centres commerciaux? On dit souvent qu'ils sont, qu'ils sont un peu boudés, que c'est plus que c'était. Et pourtant, on sent, en tout cas en France, que l'appétit de consommation est toujours là.
Alors, on parle des centres-villes, hein, parce que vous avez mentionné les centres commerciaux.
Centres-villes, pardon. Oui, on dit centres-villes. High Street.
Déformation. Eh bien, écoutez, globalement, l'activité et la fréquentation des centres-villes est plutôt positive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ici et là, mais globalement, on ressent l'attachement des Français au shopping et au fait de revenir dans les centres-villes pour déambuler et choper. Il y a aussi de plus en plus d'envie de se distraire et de cumuler à la fois le shopping, la distraction en matière d'environnement historique. Les gens aiment déambuler dans des rues, dans des quartiers. Vous avez une qualité architecturale et pourquoi pas boire un verre, choper et puis visiter un musée. Enfin, c'est quelque chose. La culture et le shopping est de plus en plus associé.
Oui.
Et on voit bien, il y a des quartiers, on est très présent dans le Marais, donc c'est vraiment, quand je pense à ce comportement des consommateurs, je pense immédiatement au Marais. Et il y en a d'autres, hein, le Vieux-Lille par exemple est aussi très
apprécié.
Alors attendez,
restons à Paris parce que justement il y a peut-être un contre-exemple et qu'on a cité récemment, c'est pas très loin du Marais justement, la rue de Rivoli. Qui a perdu effectivement un petit peu. Alors c'est vrai que là il y a le flux de circulation qui a été un petit peu empêché, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de vélos en tout cas en ce moment depuis avec la mandature d'Anne Hidalgo, mais surtout on a vu des magasins qui se fermaient. Est-ce que ça va mieux rue de Rivoli, parce qu'à un moment c'était une rue qui perdait un petit peu en attractivité?
Alors nous on connaît bien la rue de Rivoli parce qu'on y est implanté, hein. Nos bureaux sont en plein milieu. Notre siège social est rue de Rivoli.
On
est propriétaire de l'immeuble 118-120 qui est loué sur la partie commerciale à JD Sport. Alors écoutez, la rue de Rivoli, elle est très longue. Et donc la situation du commerce dans la rue de Rivoli est très contrastée en fonction de la section de la rue de Rivoli où vous êtes. Nous, on a un peu essuyé les plâtres de Rivoli parce que c'est une rue qui a été en transformation pendant de nombreuses années. Il y a eu à la fois le chantier de la Samaritaine, il y a eu la construction de la piste cyclable. Bref, c'était un chantier ouvert pendant des années et des années. Et à contrario, moi je trouve qu'aujourd'hui, je constate que les flux piétons sont de retour, je constate que la rue est de mieux en mieux et de plus en plus fréquentée, je constate que de nouvelles enseignes s'y implantent, et donc sur la meilleure partie de la rue, côté Châtelet, je dirais BHV jusqu'à maintenant la Samaritaine,
oui.
On a vu arriver des enseignes de renom. Alors j'ai en tête Uniqlo, la Samaritaine, Ikea qui a acheté un immeuble juste en face de la Samaritaine et qui a ouvert un magasin.
Bon,
nous on a implanté JD Sport. Vous avez actuellement Zara qui est en train d'agrandir son magasin. Donc je ne dirais pas qu'il y a actuellement Redefco qui est en train de restructurer complètement l'immeuble qui abritait CNA, qui est d'ailleurs juste à côté de notre immeuble. Ça, j'ai un ami qui me salue, qui me tire la langue. Et donc, en fait, je trouve que la rue de Rivoli, sur la meilleure section, est au contraire en train de se redynamiser. Il est vrai que lorsque vous passez le BHV et que vous allez vers le Marais, parce qu'on parlait du Marais à l'instant, vous avez toute une partie un peu plus compliquée qui, là, effectivement, souffre d'une vacance plus importante. Mais moi, je trouve que la rue de Rivoli est beaucoup plus dynamique qu'avant. Donc, j'ai un peu un avis différent de ce qu'on entend. En tout cas, dans sa meilleure section, il est vrai que tout n'est pas rose rue de Rivoli, parce que, encore une fois, la section après le BHV vers le Marais souffre beaucoup. Mais en tout cas, moi, je constate un dynamisme certain sur la meilleure section, avec, encore une fois, l'arrivée d'enseignes locomotives qui contribuent à ce dynamisme.
D'accord, voilà. Donc on a digéré finalement ces travaux.
Oui, on a digéré, honnêtement, et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas un fan de la piétonnisation à outrance. Et j'avais de très très grandes craintes de l'arrêt de la circulation des véhicules. Et en réalité, il y a plus de flux piétons qu'avant. Donc en réalité, la rue de Rivoli, encore une fois sur sa meilleure section, non, j'en fais pas une généralité, mais sa meilleure section, je trouve qu'au contraire, la rue de Rivoli est en train de reprendre une dynamique intéressante.
D'accord, bon, bah, c'est en tout cas, ça se vérifie si on se balade
pas que le. Oui, allez-y, vous verrez qu'il y a du flux.
C'est vrai que les trottoirs sont noirs de monde et il faut faire attention à ne pas se faire écraser par les vélos, désormais. Ouais, c'est le danger principal.
Absolument.
Mais on connaît ça de toute façon aux Pays-Bas.
Hein, oui.
On est en aide du vélo. Le reste, justement, dans d'autres villes de France, est-ce qu'on observe le même phénomène? Je crois que vous êtes présent à Bordeaux, à Lille, mais également dans d'autres villes d'Europe. Est-ce qu'on a un dynamisme accru, voilà, maintenant que la crise sanitaire est passée, les gens reviennent justement sur le High Street?
Bah, écoutez, nous on a la chance, on travaille pour, mais on va finir l'année avec ce qu'on appelle le spot occupancy à 100%.
Donc, alors,
il y a le financial occupancy, le spot occupancy c'est simplement les mètres carrés loués,
oui.
Donc, sans aucune relation avec l'impact loyer, c'est simplement toutes les surfaces sont louées à la fin de l'année.
D'accord.
Donc je ne peux pas dire que l'activité soit compliquée. Donc ça veut dire qu'il y a un appétit, et fort heureusement, globalement, un appétit des enseignes pour le développement. Alors, je lisais un article d'ailleurs chez mon ami Alain Boutini, la correspondance de l'enseigne hier, qui disait qu'en fait, il y a 30% des enseignes qui sont implantées en France qui sont encore en mode d'expansion. Donc, ça confirme ce que je disais, c'est qu'il y a encore énormément d'enseignes, et surtout sur Paris et sur le High Street, sur les grosses villes où on est implanté, qui souhaitent se développer. Et qui recherchent des emplacements.
D'accord.
Et donc on ressent, encore une fois, chacun a ses problèmes, on peut peut-être parler des problèmes, mais en tout cas pour être positif, on ressent une vraie dynamique dans l'expansion des enseignes. Alors,
ces enseignes sont internationales?
Oui, alors beaucoup sont internationales.
Hein, vous pouvez citer les noms?
Oui, bien sûr, j'ai en tête Rituals,
oui.
J'ai en tête JD Sport qui développe différents concepts.
Ils sont très actifs.
J'ai en tête Normal, qui est un concept danois qui est en pleine expansion. Donc effectivement, Snipes. Donc il y a des secteurs qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres. Le sport notamment, hein, j'ai cité JD Sport et Snipes sont deux marques qui se développent dans le secteur du sport. Mais Health and Beauty, hein, Rituals, c'est une success story en France, hein, donc avec des magasins de 150-200 mètres carrés, principalement en centre-ville. Donc il y a vraiment toute une catégorie d'enseignes, et fort heureusement, qui sont en mode expansion et qui sont très sélectives sur la qualité de l'emplacement. Donc il y a de plus en plus de temps dans l'analyse des marchés, dans la sélection des emplacements.
Parce qu'on recherche aussi un écrin en centre-ville. Vous avez cité des villes et des lieux ou des rues emblématiques où il y a un certain prix. Il faut aussi qu'on part pour des années en général. On n'emploie pas un magasin pour 6 mois.
Disons qu'effectivement, moi, ce que je constate, c'est une tendance des enseignes à ouvrir un peu moins de magasins, mais par contre, à sélectionner avec beaucoup plus d'attention, non seulement l'emplacement... Location, 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 donc le fameux adage, mais qu'on a eu peut-être tendance à oublier dans le passé. Et effectivement, un environnement, à la fois un environnement architectural et un environnement de marque. Donc dans quel environnement je mets ma marque,
oui.
Et avec qui quelles sont les enseignes qui sont à côté, quel type d'architecture, etc.
On n'a pas forcément envie de se retrouver à côté de l'enseigne Discount si on est plutôt sur le milieu de gamme.
Sauf si vous êtes dans ce créneau de marché.
Bien sûr.
Des enseignes qui sont, alors, même, vous me parlez du Discount, mais même Action, où j'ouvre aujourd'hui des magasins de centre-ville, où j'essaie d'être au centre-ville. Et si vous êtes une enseigne positionnée mass market, c'est peut-être pas idiot d'être à côté d'Action. Donc tout dépend de votre positionnement. Évidemment, si vous êtes plus dans le luxe abordable ou luxe, vous n'allez pas vouloir être à côté d'Action.
Bien sûr.
Mais tout dépend effectivement de votre positionnement. Mais effectivement, les enseignes analysent les marchés de façon beaucoup plus attentive, prennent le temps de la décision. Donc les décisions sont un peu plus longues qu'avant, mais elles sont plus réfléchies, plus analysées. Mais elles sélectionnent avant tout, non pas le nombre, mais la qualité des emplacements. Vous me direz, ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus le cas maintenant.
D'accord, et vous êtes connaisseur, puisque vous avez fait pas mal d'enseignes, hein, de McDo à Starbucks, en passant par d'autres vies que vous avez eues, Thierry Fourez. En tout cas, vous connaissez bien ce marché, et vous nous disiez, les gens de plus en plus sélectifs, en tout cas ces enseignes, pour s'implanter. Du côté justement des problèmes, qu'est-ce qui pèse en ce moment sur le marché?
On a tous en ce moment des problèmes. Les enseignes ont des problèmes liés... Encore une fois, c'est pas vraiment un scoop, mais c'est encore une réalité. On a des problèmes liés à l'augmentation des coûts, à l'augmentation des coûts de l'énergie, à l'augmentation des coûts de transport, à l'augmentation des coûts de matière, donc je dirais à l'inflation en général, qui pèse sur les comptes d'exploitation des enseignes. C'est une réalité.
Bien sûr.
Et les bailleurs investisseurs que nous sommes, comme nous sommes très consommateurs de capitaux, nous sommes également tributaires de l'augmentation des taux d'intérêt vertigineuse, record, qui s'est opérée ces deux dernières années. Donc chacun a des problèmes, même si opérationnellement ça fonctionne plutôt bien, parce que je viens de vous dire qu'on était à 100% de spot occupancy, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Les problèmes sont principalement liés, encore une fois, à l'augmentation des coûts et à l'augmentation des taux d'intérêt. Contexte inflationniste pour les enseignes qui pèsent sur leur compte d'exploitation, contexte d'augmentation vertigineuse des taux d'intérêt, même si les taux d'intérêt ont été plus élevés dans le passé, mais c'est de la croissance rapide des taux d'intérêt qui a empêché les investisseurs de prévoir, d'anticiper, et donc se retrouvent, pour certains d'entre eux, et nous on n'est pas épargnés, par effectivement des difficultés d'ordre financier.
Est-ce que ça bloque justement dans le développement de certaines...
Forcément, ça ralentit, puisqu'en fait, l'argent est plus cher. Hein, donc, quand vous empruntez à 1%, vous pouvez investir du 5% de yield, de taux de rendement net, avec beaucoup de confort. Quand vous empruntez à 5, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, forcément, ça repose la question des cibles en matière d'investissement. Ça repose la question de la capacité à se financer et donc à investir.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de vendre aussi certains actifs ?
Ça peut se produire.
D'accord.
Ça peut se produire.
Pour finir, Thierry Fourasse, on s'intéresse à 2024, hein, c'est demain. Alors, sans avoir la boule de cristal, quelles sont les perspectives pour le High Street Retail ? Vous avez dit, bon, fondamentaux plutôt bons, des gens actifs, mais toujours cette question sur effectivement le financement. Est-ce qu'on sera dans la même configuration pour 2024 ?
Alors, ça, c'est les questions à 12 millions de dollars. Non, mais très sérieusement, on constate quand même quelques bonnes nouvelles. On constate que l'inflation recule, alors pas encore très significativement en France, même si elle recule un peu, mais elle recule de façon assez importante aux Pays-Bas ou en Belgique, par exemple, où on est en déflation. Donc, cela veut dire que l'inflation commence à être jugulée. Si l'inflation commence à être jugulée, on peut espérer, d'ailleurs on a vu une pause dans la hausse des taux d'intérêt, donc on pourrait espérer que sur la deuxième moitié de 2024, on puisse assister à une baisse légère des taux d'intérêt, parce qu'effectivement, on a quand même besoin de stimuler la croissance, on a quand même besoin de stimuler l'investissement et la consommation.
Pour retrouver un peu de marge de manœuvre.
Oui, absolument. Et donc, je pense malgré tout qu'on se dirige, je pense qu'on a essuyé le plus gros de la crise et que fin 2024, deuxième partie 2024, on devrait être dans un contexte un peu plus favorable, ce qui soulagera à la fois les enseignes et à la fois les investisseurs, honnêtement. Donc je reste assez optimiste. Malgré tout, 2024, je pense que beaucoup d'investisseurs vont rester dans un mode plutôt attentiste, même si on ressent un début de frémissement, encore une fois, de vision positive, et que je pense que je pense qu'on va assister, dès lors qu'on va avoir des investisseurs qui vont revenir massivement sur le marché, on va assister à une espèce de phénomène de panurgie où beaucoup de gens vont commencer à suivre, donc un phénomène qui va s'accélérer. Je ressens un frémissement, j'ose même pas parler d'optimisme, mais en tout cas, une vision un peu plus positive du marché, sans qu'on soit redémarré sur des niveaux antérieurs à cette crise inflationniste. Mais je pense que fin 2024 devrait voir un contexte beaucoup plus favorable. Et j'ose espérer que 2025, on soit sur la confirmation de cette tendance.
Eh bien, nous verrons ça et on pourra suivre ça lors des prochains événements.
Avec plaisir.
Et MAPIC. Merci Thierry Fourasse. Je rappelle que vous êtes directeur général de Vastned. À très bientôt sur Radio Immo.
À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.
Le MAPIC, le plus grand salon de l'immobilier commercial, du 28 au 30 novembre 2023 au Palais des Festivals de Cannes sur Radio Immo.